Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Par lui, tout a été fait. Le Verbe créateur est la révélation de la Trinité. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Nous nous intéressons aujourd'hui à cette dernière affirmation. À Nicée, affirmer que tout a été fait par le Fils de Dieu, alors qu'on vient de dire que le Père est créateur du ciel et de la terre, c'est affirmer contre les Ariens que le Fils existe et agit avec le Père depuis le commencement. Mais en quoi consiste exactement son rôle dans la création ? Pour le comprendre, il faut d'abord faire un détour pour rappeler les noms qu'on donne à Dieu dans l'Ancien Testament. On rencontre deux noms principaux. Quand elle parle du Dieu de l'Alliance, la Bible utilise quatre consonnes imprononçables, qu'on traduit parfois « Yahvé » pour pouvoir les prononcer. C'est le fameux tétragramme, formé en français des quatre consonnes YHWH. Cela sert à désigner Dieu en tant qu'il est le Dieu de l'Alliance avec le peuple qu'il a choisi. Mais quand la Bible veut parler du Dieu de l'univers, commun à toutes les nations sur la terre, elle l'appelle plutôt d'un nom pluriel, Elohim. Bien sûr, Yahvé et Elohim ne sont pas deux dieux différents, c'est le même Dieu, envisagé sous deux aspects complémentaires. Le premier récit de la création, qui en énumère les étapes en les mettant en parallèle avec les jours de la semaine, donne à Dieu le nom d'Elohim. Ce nom est un pluriel. Il signifie littéralement « les dieux ». On traduit aussi « le dieu des dieux ». Si les religions païennes croyaient en une pluralité de dieux, c'est parce qu'elles prenaient pour point de départ l'observation de la multiplicité des phénomènes de la nature. Le monothéisme de la Bible affirme au contraire que Dieu est unique, mais il intègre la multiplicité dans le nom même qu'il donne à Dieu, comme s'il y avait une pluralité dans le Dieu unique, d'où la reprise du nom Elohim. Elohim, c'est donc Dieu en tant qu'il se manifeste dans l'extraordinaire variété de la création. Cela permet de comprendre le pluriel qui introduit la création de l'homme au sixième jour. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, Genèse 1:26. On a l'impression qu'avant de se lancer dans la création de son chef-d'œuvre, appelé à dominer sur tout le reste, Dieu se recueille en lui-même, qu'il tient conseil dans son être intime, comme s'il y avait en lui une forme de réciprocité, une sorte de dialogue intérieur. La tradition chrétienne a vu très tôt dans ce pluriel l'indice des personnes divines. Mais cela a commencé bien avant. En effet, les écrits de sagesse de l'Ancien Testament réfléchissent déjà à partir de trois réalités qui sont en Dieu, sa parole, sa sagesse et son esprit. Nous reviendrons plus tard sur l'esprit, tenons-nous-en pour l'instant à la parole et à la sagesse. La parole d'abord. Dès la première page de la Bible, on remarque que Dieu crée par sa parole. Cette parole a donc le pouvoir de réaliser ce qu'elle dit. Le psaume 32 affirme « Le Seigneur a créé les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. » Et comme cette parole est active, Dieu l'envoie en mission dans le monde. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. C'est le psaume 147, verset 15. Un passage du livre d'Isaïe pressent même que cette parole devra remplir une mission décisive à l'égard de l'humanité. Je cite « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange, de même, la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais, sans avoir réussi sa mission. » C'est Isaïe 55, versets 10 et 11. Ce qui vaut de la parole vaut tout autant de la sagesse, en particulier dans les chapitres 6 à 9 du livre de la sagesse. Il nous est dit qu'elle déploie sa force d'un bout du monde à l'autre et d'une manière bienfaisante, elle régit l'univers. Sagesse 8, 1. Et l'auteur ajoute en s'adressant à Dieu, « Qui aurait pu connaître ta volonté si tu n'avais donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ?» Chapitre 9, verset 17. Mais le texte le plus important, c'est le chapitre 8 du livre des Proverbes. La sagesse y apparaît en effet comme prenant part à l'œuvre de la création dans un magnifique poème où elle prend elle-même la parole et dont je ne résiste pas à vous citer quelques phrases. Les voici. « Dès l'éternité, je fus fondé. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Quand l'abîme n'existait pas, je fus enfanté. Avant que Dieu ait fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il affermit les cieux, j'étais là. J'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. » Proverbe 22, versets 23 à 30. Puisque la parole et la sagesse apparaissent dans tous ces textes à la fois intérieurs à Dieu et comme distincts de lui, on comprend aisément pourquoi les chrétiens n'ont pas hésité à les identifier au Verbe de Dieu préexistant, c'est-à-dire existant en Dieu avant toute chose, et participant à la création de l'univers. Et nous entrons ainsi de plein pied dans l'affirmation du credo, par lui tout a été fait. Mais il faut remarquer deux choses dans le texte que je viens de citer. D'une part, la sagesse est le maître d'œuvre de la création, Dieu se sert d'elle pour créer, et d'autre part, le texte nous dit qu'elle a été fondée dès le commencement, avant tout le reste, mais sans aller jusqu'à nous dire qu'elle est éternelle comme lui. Or, les Ariens se servaient de ces deux points pour conforter leur doctrine. Ils disaient « Vous voyez bien que la sagesse ou le Verbe n'est pas Dieu, puisque Dieu s'est servi d'elle comme d'un instrument pour créer. Elle est sans doute à part parmi les créatures, mais elle est une créature. Et surtout, vous voyez bien qu'elle n'est pas éternelle, puisqu'elle dit qu'à un certain moment Dieu l'a enfantée. » La dispute se concentre sur un verset que je n'ai pas encore cité, le premier de ce passage du livre des Proverbes, c'est toujours la sagesse qui parle. « Le Seigneur m'a créé au début de ses desseins, avant ses œuvres les plus anciennes. » Proverbes 8, 22. Ce verset embarrassait beaucoup ceux qui défendaient la divinité du Verbe, parce qu'on y trouve le verbe « créer ». Évidemment, les Ariens le citaient triomphalement à l'appui de leur doctrine. Aujourd'hui encore, on trouve dans les Bibles des notes explicatives un peu compliquées pour expliquer que le mot traduit par « créer » veut dire plutôt « acquérir » ou « posséder ». La réalité est plus simple. Quand le texte a été écrit, un siècle environ avant le Christ, on ne se préoccupait pas encore de faire des distinctions de vocabulaire très rigoureuses. Je rappelle qu'il a fallu attendre Nicée pour distinguer rigoureusement les verbes « engendrer » et « créer ». L'interprétation de ce texte biblique était donc loin d'être achevée. Ce qu'il est important de retenir, c'est que l'identification de la sagesse créatrice avec le Christ a été préparée de longue date dans le judaïsme. Le Nouveau Testament va donc pouvoir s'appuyer sur toute une tradition pour affirmer que tout a été créé dans le Christ. Le texte le plus connu, c'est celui de l'Épître aux Colossiens, qui dit du Christ qu'il est, je cite, « l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Colossiens 1, versets 15 à 17. Mais là encore, les Ariens pouvaient ergoter. On dit que le Christ est premier-né de toute créature, donc il a le premier rang, mais il fait quand même partie des créatures. D'ailleurs, notre liturgie actuelle a tellement peur de cette interprétation qu'elle traduit « premier-né avant toute créature », en oubliant simplement que le mot « avant » n'est pas dans le texte. Une fois de plus, on constate que les textes ne sont jamais totalement probants par eux-mêmes. C'est porté par la tradition interprétative d'un peuple assuré de l'assistance de l'Esprit-Saint qu'ils dévoilent leur vraie signification. La grande leçon à retenir de l'affirmation du credo « par lui tout a été fait », c'est que tout ce que fait Dieu à l'extérieur de lui-même est une œuvre commune à toute la Trinité. Les trois personnes divines y sont toujours engagées ensemble. C'est vrai tout particulièrement des trois plus grandes œuvres de Dieu, la création, l'incarnation et la rédemption. Dieu le Père crée par son Fils et dans la puissance de l'Esprit. Il fait de même pour que son Fils vienne au monde. Rappelons-nous les paroles de l'ange à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, le Père, te prendra sous son ombre. » Et lorsque Jésus ressuscite d'entre les morts, il est tout aussi vrai de dire que le Père le ressuscite, qu'il se ressuscite lui-même, et que la résurrection advient dans l'Esprit Saint. Quant à nous, nous devenons par le baptême enfants du Père, frères et sœurs du Christ et temple de l'Esprit, dans l'Église, qui est elle-même peuple de Dieu, le Père, corps du Christ et temple de l'Esprit. L'enjeu de la divinité du Christ, c'est que nous-mêmes puissions être réellement divinisés en entrant dans la famille de Dieu. Et cela se fait en nous faisant entrer dans une relation personnelle à chacune des personnes de la Sainte Trinité. Enfants du Père, frères et sœurs du Christ, temple de l'Esprit.